Aujourd'hui, donc, nous recevons Jacques Véron. Jacques Véron est démographe. Il est chercheur à l'Institut national des études démographiques. Il est chargé de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste de la population des pays du Sud, de la démographie de l'Inde et des relations entre population et développement. Parmi les ouvrages qu'il a publiés, j'en citerai trois. « Arithmétique de l'homme », qui est paru au Seuil en 1993, « Population et développement », qui est paru aux Presses universitaires de France en 1994, « Le monde des femmes », paru au Seuil en 1997. Voilà, Jacques Véron, je vous laisse la parole pour 50 minutes, et après quoi, il y aura le débat. Je vous remercie.
Merci. Je vais donc vous parler de démographie ce soir. Je vais partir d'une idée simple qui est de... que nous enseignent les nombres, que peut-on dire avec le nombre, et en corollaire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire avec le nombre. Vous connaissez un certain nombre des chiffres de la démographie, 6 milliards d'habitants sur Terre, vraisemblablement 9 milliards dans 50 ans, plus de 80 milliards d'habitants qui sont nés sur Terre depuis l'origine de l'humanité, le tiers des habitants de la planète qui vit en Inde ou en Chine. Je pourrais multiplier les exemples, les Italiennes et les Espagnoles qui ont aujourd'hui moins d'enfants que les Suédoises ou les Norvégiennes, ce qui était un fait surprenant. La vie moyenne en France des femmes qui est supérieure, nettement supérieure à celle des hommes, etc. Donc tous ces chiffres sont censés donner ce que disent certains, une image précise des changements que connaissent la société. Partant de ces chiffres, très vite, on arrive à d'autres types de considérations. Sommes-nous trop nombreux? L'Europe manque-t-elle d'enfants? L'immigration est-elle un moyen d'enrayer le vieillissement des populations? La libéralisation des lois sur l'avortement explique-t-elle une partie de la baisse de la fécondité? Ça, ce sont des questions qu'on peut, enfin, dans certaines, on peut les poser aux démographes. Est-il à même de répondre? Pas toujours. Le nombre occupe une place centrale en démographie, mais ce sont surtout les variations du nombre qui sont importantes. Et en fait, ce qui a vraiment donné naissance à la démographie, c'est beaucoup moins le nombre que la découverte de structures, et en l'occurrence des structures de mortalité. Néanmoins, on peut parler quand même des dénombrements qui sont un élément important qui fournissent le matériau de base aux démographes. Et rappeler que ces dénombrements existent, se sont pratiqués depuis des temps très très anciens, puisqu'on en a des traces à Sumer entre 5000 et 2000 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie en 3000 avant Jésus-Christ. On peut noter au passage qu'il y avait une comptabilité des hommes et une comptabilité simultanée des offrandes, que le recensement avait de ce fait un caractère administratif et aussi religieux, et que le mot recenser voulait dire aussi purifier. En Égypte, il y a eu des recensements, la Bible en fait état. En Inde, chez les Incas, partout, on a recensé. Et cette activité s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. L'Inde, par exemple, a une tradition très forte de recensement depuis plus d'un siècle. En Chine aussi, on recense un peu partout. Compter sur le plan conceptuel, ça ne semble pas poser de questions. C'est une opération simple, éminemment démocratique, puisque un homme égale un homme égale une femme, numériquement. C'est donc une opération neutre. Personne ne peut soupçonner qu'il y ait de l'idéologie dans la simple comptabilité des habitants d'un pays. Pourtant, quand il y a eu le premier recensement des États-Unis, il y a deux siècles, un peu plus de deux siècles, les Indiens n'étaient pas comptés, parce qu'ils ne comptaient pas. Parmi les esclaves, il était inutile de distinguer les hommes des femmes. Les esclaves, c'était un ensemble indifférencié. Parmi les femmes, ce n'était pas important de savoir quel était leur âge. La population qui comptait, c'était celle que l'on comptait dans le détail, et c'était les hommes. Et là, on avait un certain nombre d'informations sur les hommes. Je signale d'ailleurs que, toujours pour rester au cas des États-Unis, qu'il y a eu très récemment, et à propos du recensement actuel des États-Unis, toute une polémique sur la qualité du recensement. Et comme les responsables du recensement américain étaient conscients d'un sous-enregistrement des populations marginales aux États-Unis, ils souhaitaient faire une enquête complémentaire du recensement pour comptabiliser cette population. Mais cette population marginale était plutôt démocrate, et le Sénat étant plutôt républicain, il y a eu une opposition du Sénat à la comptabilité à cette enquête complémentaire, ce qui a amené à la démission du responsable du recensement. Et donc, on voit encore qu'aujourd'hui, l'action de recenser est une action importante. Un autre exemple, la contestation en Allemagne il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, du principe même du recensement, en disant on s'immisce dans la vie privée des particuliers. Et vous savez qu'en France, aujourd'hui, il y a un débat sur le remplacement du recensement dans sa forme actuelle. Donc toute cette activité de dénombrement est importante, mais ce n'est pas elle qui donne naissance vraiment à la démographie. Ce qui donne naissance à la démographie, c'est la comptabilité des décès. Et en fait, on date la naissance de la démographie à ce classement des décès. Je ne sais pas si c'est mieux. Non. Donc ça, c'est un classement des décès qui a été publié en 1662 à partir des bulletins de mortalité de Londres, donc par un certain John Grant, qui a écrit « Sur 100 individus, à partir des bulletins qu'il a observés, il en meurt pendant les 6 premières années, 36, pendant les 10 années suivantes, 24, dans les décennies suivantes, 15, etc. » Alors pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important parce qu'on a défini une relation entre l'âge et la mortalité. Et donc là, on a commencé à créer une relation. Les activités antérieures, c'était des activités de dénombrement, on comptait les gens. Là, on a établi une relation, on a mis à jour une structure. Nous sommes tellement habitués aujourd'hui à définir cette relation, à tout pondérer par l'âge et à considérer que tout est fonction de l'âge, que ça ne nous surprend plus. Mais à cette époque, c'était une vraie révolution scientifique de dire que la mortalité dépend de l'âge. Parce que dire qu'elle dépend de l'âge, ça veut dire qu'elle ne dépend pas du hasard. Elle ne dépend pas du hasard, on ne meurt pas aléatoirement, il n'y a pas un sur X qui meurt chaque année. Dire qu'il y a une structure de mortalité, qu'on meurt plus ou moins selon son âge, ça veut dire aussi qu'on remet en cause certains préjugés, on remet en cause certaines considérations religieuses selon lesquelles on meurt en fonction, plus ou moins, en fonction de son comportement, plus ou moins vertueux. Et donc, dire au fond que vous soyez vertueux ou non, bah, vous mourrez plus ou moins selon l'âge que vous avez atteint. Donc, c'était très important de définir un ordre de mortalité. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à parler de loi de mortalité. Et on parle toujours, d'ailleurs, aujourd'hui, de loi de mortalité. Les grands savants de cette époque, du XVIIe siècle, se sont intéressés, un certain nombre de grands savants se sont intéressés à ces questions de mortalité. Notamment les frères Huygens. Alors, on ne voit pas trop, mais. Je ne sais pas si on peut faire mieux. C'est ces deux-là, entre ces deux. Ah, voilà. Ah, voilà. Formidable. D'accord. Bon, donc là. Ce sont les deux frères qui, anecdotiquement, dans une correspondance qu'ils ont échangée, ont parlé de l'âge de leur père, parce qu'ils étaient inquiets de leur père qui voyageait à un âge avancé. Puis, à propos de l'âge, tiens, ben, toi, il reste tant d'années à vivre, et moi, il me reste tant d'années à vivre. Et ils ont réutilisé ces données de Grant, dont je viens de parler, et ils ont construit un tableau qui permet de calculer ce qu'on appelle l'espérance de vie. Alors, ce qui est intéressant dans ce tableau, donc ce tableau, il reprend les données de John Grant, 36, 24, 15, les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. Et donc, c'est, par exemple, ce chiffre, 36, multiplié par 3, ça veut dire qu'il y a 36 personnes qui décèdent entre 0 et 6 ans. En moyenne, ils vivent au milieu de l'intervalle, donc ils vivent 3 ans. Donc, 36 fois 3, ça fait le nombre des années vécues, 108, par les gens qui meurent avant 6 ans. Et puis ensuite, 24 multiplié par 11, c'est les années vécues par ceux qui vivent entre 6 ans et 16 ans, et ça donne 264. Et quand on fait cette somme de toutes les années, ici, ça s'appelle la somme des années vécues, et quand on divise cette somme des années vécues par l'ensemble des gens, on a l'espérance de vie à la naissance. Alors, ce qui est intéressant dans les échanges entre ces deux frères, c'est que pour l'un, ce 36, ce sont des nombres de décédés, et ce 3, c'est les années qu'ont vécu ces gens, donc 36 personnes qui ont vécu en moyenne 3 ans. Et pour Christian Huygens, qui était un probabiliste, ce sont 36, ce sont des probabilités. 3 ans, c'est une durée de vie, comme si on choisissait des durées de vie. Et cette durée de vie de 3 ans, elle a 36 chances sur 100 d'être tirée. Et la durée de vie de 11 ans, elle a 24 chances sur 100 d'être tirée. Donc en fait, les deux frères font exactement le même calcul, obtiennent exactement les mêmes résultats, mais avec deux interprétations fondamentalement différentes. Et alors, elle est explicitée, cette distinction, par Christian Huygens, qui dit à propos d'un enfant, c'est 18 ans et 2 mois là, que l'on pouvait obtenir, c'est l'espérance de vie, donc l'espérance qu'un enfant peut vivre. Mais par contre, l'apparence, c'est-à-dire la probabilité qu'il a de vivre, elle est de 11 ans. Et l'apparence, ça veut dire qu'il y a une chance sur deux qu'il vive 11 ans. Et par contre, quand on raisonne en années vécues, on a 18 ans et 2 mois. Et ça, c'est une distinction donc intéressante entre l'espérance de vie et la vie probable. Alors, je disais que beaucoup de savants de cette époque se sont intéressés à ces questions. Pour un autre exemple, c'est Leibniz. Donc, c'est un manuscrit de Leibniz qui parle, essaie de quelques raisonnements nouveaux sur la vie humaine. Et il parle de l'apparence, donc de la probabilité, règles pour trouver les moyennes apparences, etc., les bornes de la vie humaine. Donc, ces données de mortalité qui apparaissent, elles font réfléchir donc, les grands savants. Un autre dont il a été question hier, c'est Edmund Halley qui a construit ce qu'on appelle la première table de mortalité. Une table de mortalité, ça correspond à la survie d'une population, c'est-à-dire partant de 1000 personnes, combien il en reste à 2 ans, combien il en reste à 3 ans, combien il en reste à 4 ans, etc., jusqu'à ce que tout le monde ait disparu. Et cette table de mortalité permet de décrire le niveau de la mortalité d'un pays. Mais ce qui est important, donc, c'est d'avoir révélé une structure de mortalité en l'occurrence, mais aussi reliée à l'âge, et puis de voir que finalement, d'autres comportements sont reliés à l'âge. À titre d'exemple, je vous montre ces courbes, qui sont les courbes de fécondité des femmes des Suédoises, donc fécondité par âge des Suédoises, la courbe du haut 1751-1755, donc c'est l'évolution de la fécondité par âge des Suédoises. À ce moment-là, elles avaient en moyenne à peu près 5 enfants. Courbe du bas, fécondité des Suédoises en 1997. À ce moment-là, aujourd'hui, elles ont à peu près en moyenne 1,5 enfants. Je signale au passage que l'aire de la courbe représente en fait donc ce nombre d'enfants. Mais ce que vous voyez, c'est qu'il y a bien un profil par âge. Quand une femme prend de l'âge, elle a une probabilité d'avoir des enfants de plus en plus élevée jusqu'à un maximum. Et puis, elle diminue. Donc ça veut dire que le phénomène évolue en fonction de l'âge. Et la nuptialité évolue en fonction de l'âge, la mobilité évolue en fonction de l'âge, etc. Donc ce qui est important, c'est d'arriver à définir des structures. Parallèlement donc, à cette évolution de la mortalité, une des grandes préoccupations a été la multiplication, ce qu'on appelait au XVIIe siècle, la multiplication du genre humain. Alors, si on fait un petit retour en arrière, bon, depuis aussi des temps immémoriaux, on a considéré que le chiffre de la population, et c'était en partie pour ça qu'on faisait des dénombrements, que le chiffre de la population était important pour différentes considérations administratives, mais aussi qu'il était un signe et un facteur de puissance d'un État. Donc, Confucius, par exemple, l'explicitait. Plus récemment, et là, c'était une autre façon d'aborder les chiffres. Platon a défini dans sa cité idéale le nombre d'habitants souhaitables. Il considérait que c'était un élément très important de définition de sa cité. Il est nécessaire en premier lieu de déterminer le nombre des citoyens, ensuite de le distribuer en classes. Donc ce qui était important, c'était de définir un nombre et puis ensuite de faire des classes et des découpages. Le nombre que donne Platon, c'est 5040, et je vais revenir sur ce 5040, et il précise que tout législateur doit en connaître les propriétés de ce nombre, et une de ses propriétés, c'est qu'il a 59 diviseurs, parce que 5040, c'est 1 multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 4, multiplié par 5, multiplié par 6 et multiplié par 7, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de diviseurs. Et alors, quel est l'intérêt d'avoir beaucoup de diviseurs? C'est qu'on peut ranger les gens dans beaucoup de classes, et beaucoup de combinaisons de classes différentes. Donc il y avait l'idée d'un nombre, et en même temps l'idée qu'on peut mettre les gens dans des catégories qui seront pertinentes par rapport à la gestion de la cité. Donc ceci montre l'importance du nombre. Aristote, lui, considère que le nombre, que la cité idéale, correspond à la juste mesure, et il dit « 10 hommes ne sauraient faire une cité, mais 10 fois 10 000 non plus ». Donc il y a une juste mesure, il ne précise pas exactement, mais ce qu'on appelle un optimum entre différents niveaux. Mais cette multiplication du genre humain, pourquoi est-ce qu'elle a inquiété? Elle a inquiété notamment par ce qu'on peut appeler la puissance du peuplement. Et une illustration de cette puissance du peuplement peut être donnée par ce tableau, que vous ne devez pas pouvoir lire, mais j'espère que vous allez me croire. Donc on part de... Alors, oui, mais en fait, il vaut mieux le faire au zoom plus gros, au maximum. Donc l'idée là, c'est de compter combien une population de départ aura de descendants, partant d'un couple, parce que là, il y a quelque chose de très important, qui est l'idée du couple fondateur, donc deux personnes, Adam et Ève, qui vont avoir deux enfants, qui auront chacun deux enfants, etc. Donc la multiplication par deux. Et en fait, ce qui est très important, c'est le pouvoir de multiplication par deux. Et ce pouvoir de multiplication par deux, on le voit ici. Donc, partant d'un couple fondateur, ici, dans la période zéro, donc deux personnes, eh bien, on va arriver au bout de la période 37, si on suppose que tous les 33 ans, la génération se reproduit et qu'il y a à chaque fois deux enfants, on arrive à plus de 400 milliards d'habitants en 1230 ans. Donc ça donne l'idée de la puissance de peuplement. Et cette puissance de peuplement, c'est quelque chose qui a beaucoup fasciné les auteurs. Richard Cantillon, par exemple, en 1755, disait « Les hommes se multiplient comme des souris dans une grange s'ils ont les moyens de subsister sans limitation. » Le marquis de Mirabeau était à peu près du même avis, si ce n'est que pour lui, les hommes se multiplient comme des rats dans une grange. C'est une distinction fondamentale. Alors, évidemment, on ne peut pas parler de ces questions sans parler de Malthus. Malthus, c'est quand même un grand nom de la démographie. Alors, Malthus s'est rendu célèbre par ce qu'on appelle quelquefois son théorème sombre. Alors, le théorème sombre de Malthus... Là, je vais peut-être... Donc, c'est de comparer, toujours un peu dans le même esprit, de comparer la croissance de la population et la croissance des subsistances. Donc la croissance de la population, c'est toujours ce modèle, on multiplie par deux à chaque étape, donc très vite, on arrive à des très grands nombres, et au contraire, les subsistances augmentent comme une progression arithmétique, 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, si on compare ces deux croissances, c'est ça qui définit le théorème sombre, c'est que le potentiel de croissance de la population est sans rapport avec le potentiel de croissance des subsistances, et donc, la population est contrainte à rester toujours au niveau des subsistances, puisqu'en fait, cette courbe, c'est une courbe théorique, ce serait le potentiel de croissance de la population, mais elle ne pourra pas se réaliser puisque les gens n'auront pas de quoi se nourrir. Donc, ils vont buter à chaque fois sur cette courbe d'en bas, et la croissance réelle, elle sera définie par la courbe d'en bas, alors qu'il y a un potentiel de croissance considérable de la population. Alors ça a été des questions dont on a beaucoup parlé entre le XVIIIe, XVIIIe siècle, et qui sont revenus beaucoup dans les années 60 à propos de la croissance démographique mondiale. Pour vous donner une idée, qu'est-ce qui se passe alors? Ça? Voilà. Pour vous donner une idée, non. Hop, voilà. Donc de la croissance de la population sur le très très long terme. Si on part de moins 40 000 avant Jésus-Christ, la population était de 500 000 habitants. Et puis, il y a eu un plateau pendant très longtemps à 5 millions d'habitants. Et puis, une croissance très, très forte et très rapide de la population. Ça, c'est une échelle semi-logarithmique, donc ça a tendance à écraser la courbe. Si on regarde, on change d'optique. Ah, là, je n'ai rien fait. De... Ah. Si on change d'optique, on a cette évolution récente, enfin récente, c'est-à-dire depuis la naissance de Jésus-Christ, c'est... à l'échelle de l'humanité, c'est récent, de la croissance de la population mondiale. Donc là, on voit, ici, c'est 1 milliard d'habitants. Donc on voit que depuis les origines de l'humanité, la population a augmenté, mais qu'elle a mis des temps, alors variable selon le moment où on date l'origine de l'humanité, mais elle a mis très longtemps, je dirais, pour atteindre un premier milliard d'habitants en 1804. Et puis, il a fallu environ 130 ans pour qu'il y ait un deuxième milliard d'habitants. Et puis, il a fallu 33 ans pour qu'il y ait un troisième milliard d'habitants. Et puis, 14 ans pour qu'il y en ait un nouveau milliard, et puis 13 ans, et puis etc. Donc c'est l'accélération de la croissance démographique mondiale. Et vous imaginez bien que cette croissance, ça a quand même inquiété un certain nombre de gens. Et donc, on a commencé à supputer les conséquences de la croissance de la population. Ça, c'est l'ouvrage qui a concrétisé le plus cette angoisse de la population, The Population Bomb. Donc, très explicitement avec la bombe, c'était vraiment le... Et on vous dit que pendant que vous êtes en train de lire ces mots, il va y avoir 4 personnes qui mourront de faim, et la plupart des enfants, histoire de vous mettre en condition. Et c'est un ouvrage qui a eu un succès considérable aux États-Unis, et donc disant que si on n'arrêtait pas tout de suite la croissance de la population, on courait à la catastrophe. Il y a eu des éditions ultérieures de cet ouvrage, où on a amélioré. On a mis un petit bébé dans la bombe, donc pour bien qu'on comprenne le message. Alors, ces nombres, d'ailleurs, ils sont intéressants, ces nombres, puisqu'ils sont un sujet d'inquiétude. Et je vous donne un petit exemple, c'est un même quotidien, à 3 mois d'écart, qui a publié ces deux titres. 150 terriens de plus par seconde et 150 naissances par minute. Alors, j'attire votre attention sur le fait que les nouveaux terriens, ce n'est pas tout à fait la même chose que les naissances, puisque les nouveaux terriens, ce sont les naissances moins les décès. Non, mais nous n'allons pas considérer ce problème, nous allons juste considérer le problème des secondes et des minutes, pour savoir lequel a raison. Alors, si on regarde à peu près la croissance, ça c'est un article de 1988, si on regarde l'accroissement de la population mondiale, à cette époque-là, il était de l'ordre de 80 millions d'habitants par an. 80 millions d'habitants par an, ça faisait à peu près 200 000 personnes par jour, 9 000 par heure et 150 par minute. Donc, c'est celui-ci qui a gagné. Eh bien, vous voyez, le même quotidien peut titrer sur deux informations qui n'ont quand même pas beaucoup à voir, mais on se dit, le résultat, c'est que ça augmente très vite. Tout le monde a compris que ça augmentait très vite, quand surtout, plus on le met dans des unités petites, plus ça donne le sentiment d'aller vite. Je vous signale incidemment que si c'était ça qui était vrai, ça voudrait dire que la population mondiale augmenterait de près de 5 milliards d'habitants par an, ce qui est quand même pas mal. Mais bon, vu en minutes et en secondes, c'est peut-être on peut relativiser. Alors, je voudrais parler un petit peu maintenant des questions de génération, faire une petite incursion dans la démographie, le corpus, disons, pur et dur de la démographie, qui touche, en fait, à la vie des générations. La démographie, ça s'intéresse, en fait, à des changements d'État et à des probabilités de changer d'État. Alors, le changement d'État le plus simple et le plus radical, c'est la mortalité. On passe de vivant à mort, c'est un changement d'État. Et ce changement d'État, nous, on l'illustre avec ce qu'on appelle une courbe de survie. Ça, cette courbe représente le nombre de gens qui survivent en fonction de 1000 personnes, d'un effectif qu'on ramène à 1000 au départ. Et donc, la forme de cette courbe dit s'il y a plus ou moins forte mortalité. Dans ce cas, il y a faible mortalité. Dans ce cas, il y a très forte mortalité, puisque très vite, il y a des gens qui vont mourir. Et puis, à tous les âges, très vite. Aujourd'hui, on est dans ce scénario. D'ailleurs, on va vers ce qu'on appelle une rectangularisation de la courbe de mortalité, c'est-à-dire qu'elle va de plus en plus comme ça, et après, elle descend d'un seul coup. La vie moyenne, en fait, c'est l'ère de cette courbe ici. Ça veut dire toutes les années vécues en moyenne par la génération. Et puis la vie probable, dont je parlais tout à l'heure, c'est l'âge auquel il reste la moitié des gens. Donc ça, c'est un modèle qui est très fort en démographie, le modèle de la courbe de survie, puisque ça permet de classer la population entre ceux qui sont présents et ceux qui ne sont plus là. Et l'avantage, entre guillemets, c'est que ceux qui ne sont plus là ne reviennent pas. Donc, ils ne compliquent pas le jeu en cours de route, puisque, une fois qu'ils sont sortis de l'observation, ils ne reviennent pas dans l'observation. Ce qui est différent, par exemple, pour la nuptialité, puisque quelqu'un peut se marier, divorcer, mais revenir se marier, donc il peut revenir dans la population de départ. Bon, il y a un moyen, on raisonne en termes de premier mariage, etc., il y a des moyens de résoudre le problème, mais disons que ça a un côté paradigmatique, l'analyse de la mortalité. Mais on peut compliquer en considérant des changements d'état, différents changements d'état et des états multiples, c'est-à-dire être par exemple célibataire à la campagne, probabilité de passer de célibataire à la campagne à marié en ville, par exemple. L'analyse démographique va préciser les éléments démographiques de ces changements que l'on observe. Et il y a un certain nombre d'effets qui sont importants en démographie, que je vous ai listé ici, qui sont l'effet d'âge, l'effet de génération, l'effet de période, l'effet de structure et l'effet de sélection. Et ce sont des choses qui sont importantes, puisque c'est ça qui souvent amène à dire à des conclusions erronées. L'effet d'âge, c'est le fait que, quand on avance en âge, la probabilité de vivre quelque chose évolue. Je l'ai dit tout à l'heure pour la mortalité ou le fait d'avoir des enfants, on a plus, particulièrement pour les femmes, il y a un âge où on commence à avoir des enfants et puis un âge où on n'en a plus. L'effet de génération, c'est le fait que deux générations consécutives ou différentes générations ont des comportements spécifiques. L'effet de période, c'est qu'à un moment donné, on vit quelque chose, on vit la guerre. Alors, quel que soit son âge et sa génération, on vit la guerre et ceux qui y passent après, ben, ils ne la vivent pas. Donc, il y a un effet qui est lié au moment où on va vivre. L'effet de structure, c'est le fait qu'il y a à l'intérieur d'un groupe, il y a une hétérogénéité, il y a des catégories sociales, etc., différentes choses. Et puis l'effet de sélection, c'est que quand on est dans une catégorie, on n'est pas forcément au hasard dans une catégorie, on peut être sélectionné. Donc le fait qu'on soit dans une catégorie sociale, par exemple, eh bien, ce n'est pas au hasard. Donc ce qu'on va attribuer, si par exemple on observe une moindre mortalité dans un milieu social élevé, en fait, on ne pourra pas en tirer forcément des conclusions définitives, parce que la probabilité d'appartenir à ce milieu est différente de celle d'appartenir à un autre milieu. Il y a un effet de sélection. Et donc, c'est la démographie s'occupe et essaie de dénouer les chevaux de ces différents effets, de voir quel effet peut être dominant. Là, je vous montre juste cette courbe, c'est la courbe de fécondité des femmes françaises, simplement pour que vous me croyiez quand je vous dis qu'il y a un effet de génération. Eh bien, chaque courbe représente la fécondité des femmes d'une génération donnée. Celle-ci, c'est les femmes de la génération 1950. Puis ensuite, vous avez la courbe des femmes, la courbe de la génération 1960, 1966, etc. Ce que vous voyez, c'est que la courbe se décale. Donc le décalage de la courbe, c'est la modification du calendrier, c'est-à-dire que les femmes ont leurs premiers enfants ou ont leurs enfants plus tard aujourd'hui qu'hier. Et puis la surface, l'aire de la courbe, ça représente l'intensité, c'est le nombre d'enfants qu'elles auront finalement. Ce qu'il faut voir, donc, c'est que ces générations, elles ont une spécificité par rapport à... Elles ont une spécificité de comportement. Alors, juste, je ne peux pas ne pas vous montrer ça, puisque c'est l'outil, c'est la clé à molette du démographe. Ça s'appelle le diagramme de Lexis, et c'est une correspondance entre les années et les âges. Donc, en fait, si on prend quelqu'un qui est né en 1984 et qu'on marque les événements qui le concernent, on les marquera ici. Et donc, en 1984, il a 0 ans, et puis il aura 1 an en 1985, etc. Donc, l'avantage, c'est de bien voir de quelle génération on se réfère et de bien situer les données. Je vous montre ça pour vous parler de l'espérance de vie. Quand on vous dit aujourd'hui l'espérance de vie est de 80 ans, enfin, elle est 76 ou 15 pour les hommes et 82 pour les femmes, l'espérance de vie qu'on donne aujourd'hui, c'est l'espérance de vie qui est calculée comme ça, une année donnée. Ce qui veut dire que c'est l'espérance de vie de personne. Parce qu'en fait, ce sont beaucoup de générations qui sont concernées par ce calcul-là. Donc il y a ceux qui naissent aujourd'hui, si tout va bien, ils peuvent espérer vivre plus longtemps. Et puis il y a ceux qui sont en haut, donc ils sont nés bien avant. Et pour eux, l'espérance de vie calculée aujourd'hui est plus faible, leur espérance de vie réelle, puisqu'ils ont vécu avec des conditions différentes. Donc ça, simplement pour vous dire que quand on donne un chiffre régulièrement... C'est intéressant de savoir à quoi peut correspondre ce chiffre. Un autre point important de la démographie, c'est ce qu'on appelle la dynamique des populations. Donc, ça revient à la multiplication du genre humain, mais cette fois dans la recherche de relations formelles. Le mathématicien Euler s'était déjà intéressé à cette dynamique des populations, et Alfred Lotka, dans les années 30, a donné une large formalisation des relations entre grandeur démographique dans un cadre dynamique. Et notamment, il a défini ce qu'était une population stable, c'est-à-dire une population qui a la fécondité et la mortalité qui restent constantes. Elle va avoir une structure par âge constante. Et ce sont des modèles qui apparaissent très théoriques, mais qui ont eu une grande utilité pratique, parce qu'en fait, ça correspondait à des populations anciennes, à ce qui se passait dans des populations anciennes, où il n'y avait pas de changement, et aussi à des populations en développement. Et compte tenu de ces relations formelles entre mortalité, fécondité, etc., si on avait très peu d'informations sur une population, on pouvait en déduire un certain nombre de choses. Cette dynamique des populations, elle vous permet aussi de voir un petit peu comment les choses vont évoluer dans le futur. En 1994, il y a eu une conférence au Caire se préoccupant de la croissance de la population, entre autres, en fait, se préoccupant des relations entre population et développement, considérant que l'espèce était en danger, puisqu'on approchait 6 milliards d'habitants. Et donc, un certain nombre de gens ont dit qu'il faut stabiliser la population mondiale le plus rapidement possible. Avec l'idée que si les femmes avaient tout de suite, du jour au lendemain, une fécondité très très basse, le problème serait résolu et donc il n'y aurait plus de soucis à se faire. Eh bien, les choses ne marchent pas comme ça. Elles ne marchent pas comme ça parce qu'il y a ce qu'on appelle l'inertie démographique. Et l'inertie démographique fait que la population a pris de l'élan, et même si du jour au lendemain, les femmes ont le nombre d'enfants qui correspond juste au remplacement des générations, c'est-à-dire 2,1, eh bien, la population va continuer à croître pendant assez longtemps. Le assez longtemps, là, il est de 150 ans, et l'accroissement, il est de 3 milliards d'habitants. Donc si aujourd'hui, du jour au lendemain, les femmes se situent tout de suite, ont la fécondité du niveau de remplacement, il y aura encore un accroissement de la population mondiale de 3 milliards. Ce qui montre bien que la solution consistant à dire arrêter la fécondité, donner une politique de population draconienne et le problème démographique sera résolu est une fausse solution, puisque de toute façon, il y aura un accroissement qu'il faudra gérer en termes économiques ou écologiques. Toujours un peu pour vous sensibiliser, vous montrer la nécessité de bien savoir de quoi on parle, je voudrais vous montrer les éléments concernant l'effet du sida en Afrique, puisque c'est un sujet qu'on aborde très souvent, en disant, on nous cache tout, on ne nous dit rien, sur l'évolution du sida en Afrique. Et les gens disent, la population africaine continue de croître, alors qu'avec le sida, elle ne peut pas continuer de croître. Eh bien là, il faut bien faire une distinction entre la mortalité et la croissance de la population. Si on regarde l'effet du sida dans les pays où l'épidémie est la plus forte en Afrique, on voit qu'il y a une diminution de l'espérance de vie considérable. De 60 ans, là, par exemple, pour la période 2010-2015, de 60 ans à 53 ans. Donc cette année d'espérance de vie, c'est considérable. Par contre, si on regarde la croissance de la population, ça c'est l'évolution du taux de croissance de la population sans sida, avec le sida. Avec le sida, vous voyez donc qu'il y a un déclin de la croissance considérable, mais il y a quand même croissance, puisque là, on est à plus de 1% ici. Donc, ça n'est pas incompatible de dire il y a une épidémie terrible qui fait un nombre de victimes considérable et de dire ça ne ralentira pas la croissance. Enfin, ça ralentira, mais ça n'annulera pas la croissance de la population. Parce que dans un cas, on raisonne sur des personnes, et là, on raisonne sur des populations. Et donc, il y a des effets de compensation compte tenu du fait que c'est une population très jeune avec un pouvoir d'accroissement très élevé. La dynamique des populations vous permet aussi de mieux savoir comment vieillit un pays. Ce petit graphique, juste pour vous montrer que ça n'est pas la même chose quand on parle de vieillissement de la population, ce n'est pas la même chose de dire qu'il y a vieillissement parce qu'il y a une baisse des naissances, c'est le moins qui figure ici, il y a réduction de la base de la pyramide des âges, ce n'est pas la même chose que le vieillissement par le haut, c'est-à-dire que les gens vivent plus âgés, donc il y a plus de personnes qui atteignent des âges élevés. En pratique, il y a les deux effets qui se produisent simultanément, mais mécaniquement, les effets sont différents, puisqu'ici, c'est augmentation du poids des personnes âgées par rapport à l'ensemble de la population, alors qu'ici, c'est augmentation du nombre de personnes âgées. Et donc, c'est un effet différent. Mais je disais, en pratique, ça se cumule. Toujours pour rester sur l'idée de ce qu'on peut dire ou ne pas dire avec des chiffres, je voudrais juste vous montrer une courbe, puisque on dit aussi, je ne vais pas tellement insister dessus, mais sur que la démographie, enfin, des éléments forts de la démographie, c'est le rapport de masculinité. Alors, le rapport de masculinité, c'est le fait qu'il y a un peu plus de garçons que de filles à la naissance, partout, dans tous les pays, toutes les époques, et donc c'est quelque chose de très stable. À l'inverse, si ça n'est pas stable, c'est-à-dire si on observe quelque chose qui ne correspond pas à ça, c'est une information qui peut être intéressante. Ça, c'est l'évolution, la courbe d'en bas, là. C'est l'évolution de la masculinité en Corée du Sud pour les enfants de rang 1. C'est-à-dire pour le premier enfant, on regarde combien il y a de filles, combien il y a de garçons à la naissance. Bien, si je regarde la masculinité pour des enfants de rang 2, vous voyez que déjà, elle augmente, ça commence à être un peu bizarre. Si je regarde pour les enfants de rang supérieur, rang 3, rang 4, on a plus de deux garçons pour une fille. Ce qui, évidemment, ce qui ne peut pas être expliqué par ce qu'on pourrait appeler les lois de la nature, entre guillemets. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en Corée du Sud, on a appliqué une politique de limitation des naissances efficace. Les gens n'ont qu'un enfant. Enfin, tendent à n'avoir qu'un enfant, ils veulent un garçon. Donc, si ce n'est pas un garçon, il y a des avortements sélectifs selon le sexe de l'enfant, et donc on ne garde les enfants que quand c'est des garçons, et cet effet va être de plus en plus important selon le rang de naissance. Alors, ça concerne moins d'enfants, évidemment, puisqu'il y a moins d'enfants de rang élevé, mais cette évolution vous donne une information. Si vous voyez une courbe comme ça, il y a forcément quelque chose derrière, explicatif. Et ça, on l'observe en Inde, on l'observe en Chine. Ce n'est pas uniquement un cas d'école. Alors, partant de cette dynamique des populations, je voudrais dénoncer, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas attirer l'attention sur ce qu'on peut appeler l'illusion mécaniste. Partant du fait qu'il y a des relations entre différentes choses en démographie, on peut avoir tendance à concevoir la démographie comme une mécanique, comme un mécano. Si je bouge quelque chose ici, nécessairement, il va se passer telle chose ailleurs. Par exemple, si les naissances sont peu nombreuses, eh bien, dans 25 ans, il n'y aura pas beaucoup de gens pour travailler. Il n'y aura pas beaucoup de gens sur le marché du travail. En pratique, ça ne se passe pas forcément comme ça. Ça ne se passe pas comme ça d'abord parce que si les naissances sont peu nombreuses, il y a beaucoup d'autres choses qui changent. Et dans les beaucoup d'autres choses qui changent, il peut y avoir une immigration. Et dans le cas de la France, il y a eu une montée de l'activité féminine importante. Donc il n'y a pas eu un effet direct sur l'activité de la baisse de la natalité. Quand on a une vision mécaniste, on peut dire l'espérance de vie augmente, donc on doit travailler de plus en plus tard, puisqu'on aura plus de temps pour travailler tard, enfin on a plus les moyens. En pratique, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une baisse de l'âge de la retraite. On va revenir sans doute sur ces questions, sur cette diminution de l'âge de la retraite, et il n'y a pas un effet forcément mécanique, mais en tout cas, ceux qui annonçaient l'effet direct de l'allongement de la vie humaine sur l'augmentation du temps de travail, du temps travaillé, se sont trompés. De la même façon, le mariage, c'était le cadre dans lequel avait lieu l'essentiel de la procréation. Eh bien, la baisse de la nuptialité n'explique pas la baisse de la fécondité, simplement, elle explique l'augmentation de la fécondité hors mariage. Et on pourrait multiplier les exemples de... Et notamment, bon, je ne parle pas parce que Michel Lévy en parlera sur l'immigration, mais aussi il y a cette idée de vases communicants sur l'immigration. Et je vous montre quand même cette répartition de la population des États-Unis actuellement. Donc on n'a pas l'idée de vases communicants, on a au contraire concentration de la population dans certains points. Il n'y a pas une égale répartition de la population, et si on regarde la répartition de la population sur la surface de la Terre, on a le même genre de carte. Donc l'idée qu'on va être tous pareils, notre petit secteur, et que donc il y aura un équilibre, et que l'exode rural peut assurer un équilibre, etc., ce sont des idées qui sont, à mon sens, un peu rapides. Alors, Je voudrais parler un peu, enfin, aborder une vision de la démographie, donc un peu plus large, à partir de, en considérant les systèmes, ce qu'on peut appeler les systèmes démographiques. On analyse relativement facilement les populations anciennes à partir d'un système, en considérant qu'il y a des systèmes stables, au moins dans des périodes données de temps, et le système, c'est le fait que la natalité, la mortalité, la mobilité sont en correspondance. Donc ces interrelations vont faire qu'il y a un certain équilibre, ce qu'on a appelé autrefois un équilibre de population, qui va se produire et se maintenir. Par exemple, si la fécondité augmente, la mortalité va augmenter parce que les gens n'auront plus assez à manger, donc il y a un équilibre qui se rétablit. À l'inverse, on peut faire une analyse systémique d'une crise. S'il y a une crise, eh bien la natalité, les gens vont se marier plus jeunes après une crise et puis vont avoir plus d'enfants. Et donc il y aura une récupération. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, après la peste noire de 1348, qui a décimé les populations sur une très grande échelle. Donc il y a un ensemble de règles qui vont maintenir cet équilibre. André Tchelekou, par exemple, a étudié ça dans le cas des Pyrénées, en montrant comment le mariage, tout était en correspondance. En fait, le contrôle de la nuptialité permettait de maintenir constante une population dans des zones montagneuses pour surtout ne pas avoir à partager les terres. Alors, ce qui est intéressant donc, là, dans cette vision des systèmes, c'est de dire que la population réagit à un environnement, à un contexte. Alors, dans le cas des Pyrénées, le contexte, c'est d'abord quelque chose de montagneux, avec le terrain qui est compté, l'espace qui est compté. Mais le contexte, c'est une notion qui n'est pas uniquement écologique, qui est une notion beaucoup plus riche. Et pour vous en convaincre, je voudrais vous citer le cas de deux communautés suisses qui ont été étudiées, l'une catholique et l'autre protestante, dans des environnements écologiques complètement comparables, c'est-à-dire dans la montagne en l'occurrence. Mais la différence, c'est qu'il y avait un certain nombre de communautés catholiques et protestantes, et il y a une communauté catholique. Et bien, le simple fait qu'il y ait une communauté catholique qui soit insérée dans des communautés au milieu de communautés protestantes fait que le contexte de cette population est différente, et les éléments démographiques vont être différents. Elle aura une fécondité, une mortalité infantile plus forte, une fécondité plus élevée. Par contre, le marché matrimonial sera beaucoup plus restreint, c'est-à-dire qu'il sera plus difficile de trouver pour un garçon une femme catholique à une distance raisonnable, etc. Donc, simplement pour attirer l'attention sur le fait que le contexte est très important, et aujourd'hui, on en parle beaucoup quand on aborde les questions de relations, par exemple, population et développement. Mais ce système démographique, en fait, il peut se décliner de diverses manières. Il peut se décliner, par exemple, comme ça a été le cas en Chine. La Chine a obtenu 300 ans de relative stabilité de sa population d'une autre manière, avec au contraire un mariage extrêmement précoce, mais avec une fécondité relativement basse et une mortalité élevée. Donc, en fait, il y a différentes configurations qui permettent d'atteindre le même résultat, et le résultat, à cette époque-là, enfin, avant le 19e siècle, c'était la stabilité de la population. Aujourd'hui, on est dans un environnement nouveau, qui est un environnement de changement, de progrès et de rupture. Le système socio-spatial pyrénéen dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, pourquoi est-ce qu'il a éclaté ? Il a éclaté parce qu'il y a eu, après la Révolution française, un désir d'égalité. Les valeurs d'égalité se sont répandues et le système, il était fondamentalement inégalitaire, donc il ne pouvait pas survivre. Et c'est donc un changement de valeur qui a entraîné une rupture du système. Aujourd'hui, on analyse plus les questions en termes de développement, donc fondamentalement en termes de changement, puisque le développement, c'est du changement, en principe, on espère vers du mieux, mais donc la référence, c'est du changement. Et donc les analyses doivent porter sur le changement. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on se rend compte, et particulièrement quand on aborde les questions de développement, c'est que les questions sont complexes. Et quand ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de l'illusion mécaniste, c'est justement ces enchaînements très simples, eh bien on s'aperçoit que ça ne marche pas, parce qu'il y a des paradoxes, parce qu'il y a des effets de retour, des interactions, etc. Donc on est tenté de dire qu'il faut prendre de plus en plus d'éléments en considération pour traiter le problème. Mais la difficulté, c'est que plus on prend des choses en considération, plus c'est difficile de savoir de quoi on parle. Ça, c'est un modèle qui a été construit par un institut en Autriche sur l'analyse des systèmes, précisant enfin, distinguant un système sociétal, social ou sociétal, un système écologique et un système économique, pour tenir compte des interactions entre différentes grandeurs. Donc dans l'esprit, c'est très bien, puisque ça montre qu'on essaie de tenir compte de la complexité. Dans la pratique, après, on ne sait plus très bien de quoi on parle, parce qu'on a du mal à alimenter ces relations, et finalement, on n'a pas de solution, je dirais, entre le simple trop simple et le complexe trop complexe, sachant qu'il faut situer quelque part au milieu, et que ça n'est pas toujours satisfaisant. Alors, ce qui amène souvent à ne pas rester au niveau du complexe, en tout cas ce qui développe l'idée que la démographie peut donner des impératifs simples, c'est sa relation avec le politique. Déjà pour une raison, c'est que les objets de la démographie, c'est des mariages, des naissances, des décès, des migrations, etc. Donc ce sont des choses simples sur lesquelles tout le monde, et sur l'évolution desquelles tout le monde peut avoir un avis. Et donc ça donne... Très vite, on passe du domaine de l'analyse au domaine militant. Je vous ai montré tout à l'heure la couverture du livre de Paul Ehrlich, The Population Bomb. Paul Ehrlich, c'était un biologiste très réputé de Stanford. Donc, une fois qu'il écrivait son livre, personne n'allait le contester. Et pourtant, c'était purement un discours militant. Mais comme c'était un biologiste renommé, on n'avait pas de raison de le remettre en cause. Et alors ce glissement, il fait qu'on dit, on passe de quel est l'effet par exemple de l'avortement sur la fécondité à faut-il ou non libéraliser l'avortement, faut-il ou non adopter une politique draconienne de limitation des naissances, etc. Et les mots sont rarement neutres. Quand on parle d'explosion démographique ou d'implosion démographique ou de surpopulation ou d'inflation urbaine, il y a des jugements de valeur qui sont déjà dans ces mots. Comprendre la dynamique migratoire ou analyser les modalités d'intégration des étrangers, ce n'est pas la même chose que dire il faut une réglementation de l'immigration ou cette opération de régularisation des immigrés est légitime. Donc il faut bien savoir de quoi on parle. Et d'un côté, l'approche mécaniste et d'autre part, une confusion entre sciences et politique entretiennent un flou plus ou moins artistique. Et cette dimension politique se nourrit de discours très simples. Ça, c'était un article d'un journal hebdomadaire, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas faire de publicité clandestine, mais qui annonçait « Le monde périra étouffé par les berceaux ». Et c'était, je pense que vous reconnaissez le personnage. Eh bien ça, c'est un discours qui a été extrêmement vendeur, et notamment au moment de la conférence du Caire sur la population et développement. Pourquoi est-ce que c'était extrêmement vendeur? Parce que ça voulait dire qu'il faut adopter une politique de population, puisque la catastrophe, c'est la démographie qui crée la catastrophe. Donc, adoptons une politique de population, et on n'est pas obligé de changer le reste, puisqu'on résoudra le problème de cette façon-là. Ce discours simpliste, je pourrais vous le montrer à partir d'un... Ça, c'est une brochure indienne pour la planification des naissances qui montre un Indien donc, qui a des enfants, qui sont très gentils, mais un jour, ils veulent partager les terres. Et donc, la situation s'aggrave puisqu'on partage de plus en plus les terres. Et il se demande, il y a sa femme qui est malade, enfin, vraiment rien ne va plus. Mais heureusement, les enfants ont compris, eux ne vont pas faire comme leur père. Ils vont adopter la planification familiale et donc le problème sera résolu. Donc ça, c'est une brochure qui est distribuée en Inde pour limiter les naissances, enfin pour sensibiliser à la limitation des naissances. Autre exemple de ces diagnostics simples, la planification familiale aide tout le monde. Ça a été fait par l'université américaine. Je tire ça, hop. Qu'est-ce que je vois? Que ça protège les femmes des naissances, enfin des grossesses non désirées, on sauve la vie des enfants, on aide aux soins de la famille, on améliore le bien-être familial, on développe l'économie, on protège les ressources naturelles. Donc si on fait de la planification familiale, on résout tout. Donc on résout tout, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de faire autre chose, et donc les problèmes écologiques, etc., ne sont que la conséquence de problèmes démographiques. Et donc ça, évidemment, c'est hautement idéologique. Dernier point avant ma conclusion, je voudrais attirer votre attention sur la dynamique entre âge et temps, parce que c'est quelque chose qui est essentiel en démographie, qui est l'interaction entre l'âge et le temps. Alors l'âge a un statut particulier, puisqu'il est, selon les mots de Rémy Lenoir, je trouve qu'il a bien caractérisé, une variable mathématiquement, c'est-à-dire numérique, quantitative et continue, et biologiquement constituée. C'est-à-dire qu'elle a un statut mathématique, enfin un statut, on sait de quoi on parle, et biologiquement, il se passe quelque chose en relation avec l'âge. En plus, l'âge d'un individu a un mérite, c'est que, enfin son âge chronologique, c'est qu'il ne souffre d'aucun arbitraire. On a 40 ans, ou on a 65 ans, on ne le sait pas forcément, mais on l'a, et personne ne le discutera outre mesure. Et donc, partant de là, et partant de l'idée que l'âge biologique a une incidence sur notre vieillissement, eh bien, on en infère qu'il y a une espèce de sociologie de l'âge qui est du type biologique. Et là, évidemment, il y a un glissement très fort. Il y a un glissement très fort parce que l'âge est une variable multidimensionnelle. Par là, je veux dire que la relation au temps est multiple. Si je considère l'âge d'une personne, c'est le temps qui le sépare de sa naissance. L'âge chronologique, c'est le temps qui vous sépare de votre naissance. Mais vous pouvez considérer aussi les années qui vous restent à vivre, c'est-à-dire le temps qui vous sépare de votre mort. Vous ne les connaissez en principe pas, mais l'espérance de vie à l'âge donné vous donne un indicateur de ce qui vous reste à vivre. Ça peut avoir une incidence sur vos comportements de consommation, d'épargne, d'héritage, etc. Mais l'âge, c'est aussi des années qui ont été vécues dans certaines situations. Ce sont des expériences, des années passées dans différents états. Veuvage, activité professionnelle pour des femmes. Si on regarde l'expérience des femmes de génération espacée de 25 ans, par exemple, les femmes d'aujourd'hui ont passé beaucoup plus de temps dans la vie professionnelle, donc leur expérience sera différente. Et d'ailleurs, en termes de retraite, etc., ça aura un certain nombre d'incidences. L'âge multidimensionnel, l'âge est aussi relatif, et il est doublement relatif. Il est doublement relatif puisque il dépend de... Enfin, il est en relation, l'âge d'une personne, avec l'âge des autres, et il est en relation avec le temps. Il est en relation avec l'âge des autres, parce que si vous êtes jeune dans une société jeune, c'est pas la même chose que d'être vieux dans une société jeune et que d'être jeune dans une société vieille. Donc l'âge des autres, la moyenne des âges d'une population, va avoir une certaine incidence sur les valeurs, sur un certain nombre d'éléments, ou politiquement, etc. Et puis le temps va aussi jouer sur l'âge, dans la mesure où il y a du progrès technique, où il y a, pour les femmes, l'évolution de la contraception, etc. Donc ce n'est pas forcément le temps en tant que tel, mais c'est le temps comme estimateur d'un certain nombre de changements. Donc, quand on parle d'âge, je pense qu'il faut être conscient du fait qu'on peut parler d'années à vivre, d'années vécues, de la perception de l'âge, de durée, d'expérience, etc., et qu'on ne peut pas utiliser ce critère de manière radicale et absolue et définitive. Mais aussi, cette évolution de l'âge, enfin, ce statut donné à l'âge, plutôt, vient de ce qu'on a. Il y a une interaction aussi entre l'observation et la réalité. C'est-à-dire qu'on dit dans la société... En fonction de l'âge, ben vous allez aller à l'école, vous allez travailler, puis vous ne pourrez plus travailler à partir de tel âge, vous ne pourrez plus passer de concours après tel âge, etc. Donc on crée un certain nombre de règles, on analyse les règles, on dit, ben oui, les gens à tel âge, ils sont à l'école, à tel âge, ils sont sur le marché du travail, à tel âge, ils sont à la retraite. Et partant de là, évidemment, on renforce par l'analyse et par des lois adaptées, on renforce, disons, le rôle de l'âge dans la société. Et là, il y a, à mon avis, un effet qui est à la limite un effet pervers, qui est cette interaction entre l'observation, la description scientifique et une espèce de légitimité de la classification dans la société qui passe par l'âge. Pour conclure, je voudrais revenir sur le nombre. Donc, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est dans quelle mesure on pouvait utiliser des nombres et dans quelle mesure on allait au-delà de ce qu'ils pouvaient dire dans certains cas. Mais un des points qui est central en démographie, en fait, c'est la dimension quantitative et la dimension qualitative. Quand est-ce qu'un nombre ou l'augmentation d'un nombre traduit un changement qualitatif, c'est-à-dire quand est-ce qu'il y a une forme d'émergence? Si la taille d'une ville augmente, si je prenais un cas d'un tout petit hameau qui devient à terme la plus grande ville du monde, eh bien, il va y avoir des changements qui vont se produire. Et je pourrais décrire, dire qu'il y a de plus en plus d'habitants dans cette ville, ça sera l'évolution d'un nombre, mais cette ville, elle va changer de fonction, elle va changer de système de relation à un moment donné. Et la difficulté, évidemment, c'est de décrire ce changement ce saut, ce seuil, etc., cette émergence de valeurs nouvelles qui va se produire en fonction du temps. L'augmentation, par exemple, de l'espérance de vie à la, naissance, c'est une amélioration du sort moyen. Donc l'augmentation de l'espérance de vie, c'est les années vécues en moyenne, etc., c'est quelque chose de quantitatif, et c'est censé traduire quelque chose de qualitatif, qui est le fait que les gens vivent mieux. Mais on dit, attention, l'espérance de vie augmente, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui sont malades et qui vivent à la fin de leur vie dans des conditions très dures, donc l'augmentation de l'espérance de vie ne traduit pas une amélioration de la qualité de vie des gens. Alors à ce moment-là, on revient sur du quantitatif, on dit, ben, on va compter les années où les gens sont en bonne santé. Et puis à ce moment-là, par du quantitatif, on va essayer d'écrire du qualitatif, qui est une amélioration du sort de la population. Et donc cette interaction entre du quantitatif et du qualitatif, à mon avis, est un élément central de la démographie, et au-delà des nombres mêmes et de l'analyse des nombres mêmes, mais sachant qu'à certains moments, on n'arrive pas à aller jusqu'au qualitatif, et qu'à certains moments, on peut, à partir du quantitatif, essayer d'approcher de plus en plus du qualitatif. Voilà, je vous remercie.
Bien, nous passons aux questions. Une là.
Oui, bonsoir. Une là. J'ai suivi à peu près avec intérêt tout ce que vous avez dit, et vous avez donc bien insisté sur l'aspect quantitatif. Moi, j'aurais voulu avoir une précision, c'était l'incertitude sur vos diagrammes, puisque vous nous présentez des courbes chiffrées, mais quelles sont les incertitudes sur vos modèles et sur les mesures réelles ?
Les incertitudes sont de degrés très divers. Quand il s'agit de la courbe de la France, il n'y en a aucune pratiquement, puisque tout est enregistré très bien, les naissances, les décès, le registre d'état civil. Quand il s'agit de population de pays en développement, elle est très forte. Quand je vous montre les chiffres, la courbe des effets du sida que je vous montre au Botswana, par exemple, celle d'en bas, sur le graphique tout à l'heure, évidemment, il y a une très forte incertitude, il y a des hypothèses derrière. Mais le problème se pose, à mon avis, moins en termes purement d'incertitude, c'est... il y a des populations qu'on connaît de manière très, très diverse, et sur un certain nombre de pays, on a quand même des informations, alors plus ou moins directes, sachant que sinon, on n'en aurait pas du tout. Donc, le problème de la précision elle-même des données se pose pour tous les pays en développement, sauf quelques grands pays. Je vous ai parlé de l'Inde, qui a une tradition de recensement très régulière et très bien menée. Mais par contre, sur ce qui se passe entre les recensements, l'information est très déficiente. Donc les chiffres, si vous regardez l'ensemble des chiffres produits à l'échelle du monde, il y a des chiffres, évidemment, avec des statuts très, très divers. Mais ça, bon, il faut faire avec. Mais c'est important aussi de savoir, quand on les interprète, quelle est la marge de manœuvre qu'on peut avoir et quelle est la marge d'incertitude. Mais on n'a pas toujours les éléments pour le savoir.
Je voulais vous demander qu'est-ce qui reste de Malthus, c'est-à-dire les ressources du monde et l'augmentation des populations, est-ce que ça diverge autant qu'il l'avait dit, et dans quelle mesure, en tout cas, ça diverge, puisque certains préconisent les OGM et leur développement de façon à pallier à l'insuffisance des ressources.
La difficulté, en fait, vient de la notion de bilan des ressources. Ça a été quelque chose dans les années 60 et années 70, quand il y a eu halte à la croissance, le rapport du Club de Rome, etc. On est revenu beaucoup au discours malthusien, du fait de la croissance très rapide de la population que j'ai montré tout à l'heure. Et donc à ce moment-là, il y a eu la population bomb, mais il y a eu aussi toute une autre tendance, le rapport Meadows, donc à essayer de chiffrer toutes les ressources de la planète. Mais le problème, en fait, évidemment, il est de savoir quelles ressources on compte, comment on compte, etc., mais aussi de savoir quelles sont les ressources qui sont utiles à terme. Et donc c'est la question principale, c'est la question de substituabilité des ressources. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on remplace du charbon par de l'électricité, l'électricité par autre chose. Et donc, le bilan comptable que l'on peut mettre en regard de la croissance de la population, il est très imparfait. Donc on a forcément un bilan limité. Dès que l'on fait croître, et c'était en vogue à ces moments-là, on parlait de la dynamique de la croissance dans un monde fini, dès qu'on fait croître n'importe quel phénomène dans un monde fini, il suffit d'attendre assez longtemps, et même souvent pas très longtemps, pour que ça explose. Et toutes les perspectives, d'ailleurs, si aujourd'hui la population mondiale continuait de croître au rythme infinitésimalement actuel, c'est-à-dire si les femmes gardaient le même nombre d'enfants qu'elles ont aujourd'hui, dans 150 ans, il y aurait 400 milliards d'habitants sur Terre. Et pour, malgré cela, on considère maintenant que la population va se stabiliser autour de 10, 11 milliards d'habitants. Donc, le discours que l'on peut avoir, et c'est très net si on regarde la courbe de la croissance de la population, le discours qu'on pouvait avoir dans les années 60-70, on ne l'a plus aujourd'hui, parce qu'on sent le ralentissement de la croissance. Mais celui qui aurait parlé de stabilisation dans les années 60-70, vraiment, on l'aurait enfermé rapidement. Et alors qu'aujourd'hui, on peut le dire, et on pense que ça se passera. Alors après, savoir si ça va rediminuer, s'il y aura l'implosion, etc., c'est encore une autre question. Mais disons, l'idée qu'on va vers une croissance indéfinie est toujours plus, et que c'est une idée maintenant qui n'est plus de mise.
Oui, j'ai deux questions. Peut-être que ça va...
Levez-vous.
Ça va recouper avec le début du cours. J'arrive jamais à venir à temps ici. Alors, première question. La démographie, les démographes à l'UNESCO, au Musée de l'Homme, j'ai assisté à des conférences où on explique avec l'outillage mathématique, les ordinateurs, etc., qu'en 2050, la population s'arrêtera à 9 milliards. Nous en sommes à 6, je crois. Hein. Alors, et donc, il y aurait cette fameuse idée de croissance continuelle sur la Terre. Est-ce que... Bon, première question. Deuxième question. Monsieur Dosset, le prix Nobel, il y a 5 ans, il a mis en route l'idée de vivre jusqu'à 120 ans. Alors, il appelait ça, il disait, sa méthode, c'est, le mot prédictif existait, mais il a employé le mot médecine prédictive. Et ça consiste à s'occuper des gens en prévention plutôt que de les guérir quand ils sont malades. Bon, alors, deuxième chose, M. Larocque, le créateur de la Sécurité sociale, que j'ai vu 15 jours avant sa mort, l'an dernier, il disait, on a gâché complètement la Sécurité sociale et le prix que ça coûte parce qu'on ne faisait pas de prévention. Ça recoupe donc l'autre question. Voilà, ça c'est la deuxième question, monsieur.
Bien, sur la première question, sur les 9 milliards, actuellement, on pense qu'on atteindra 9 milliards dans 50 ans et qu'on se stabiliserait dans un siècle et demi autour de 11 milliards. On disait 12 et puis la baisse a été plus rapide que prévu, notamment du fait que la politique de population draconienne en Chine, comme la Chine compte beaucoup dans l'évolution de la population mondiale, a ralenti plus que prévu la croissance de la population mondiale. Mais on reste pour l'instant sur un scénario autour de 11 milliards. La deuxième question sur l'espérance de vie, je crois qu'il faut d'abord distinguer la longévité de l'espérance de vie. La longévité, c'est la période la plus longue que l'on peut vivre dans l'espèce humaine. L'espérance de vie, et particulièrement quand on raisonne à la naissance, c'est les années vécues par tous ceux qui viennent de naître. Et là, il faut avoir à l'esprit l'ampleur des inégalités entre Nord et Sud. Je veux dire, ce qu'on peut dire sur la France, et en France, les femmes ont 82 ans d'espérance de vie, c'est une des plus élevées du monde, avec le Japon, il y a effectivement là des gains et on peut gagner plus. Et d'ailleurs, il y a des discussions de savoir s'il y a une limite ou pas à la croissance de l'espérance de vie. Mais on ne peut pas appliquer ça à l'échelle de la planète aujourd'hui. À l'échelle de la planète, il y a des écarts fantastiques, il y a des niveaux de développement très, très différenciés. D'ailleurs, vous l'avez vu, si on prend le cas de l'Afrique, vous avez des espérances de vie de 50 ans encore, 60 ans. Donc le problème de l'espérance de vie à 120 ans ne se pose pas. On retrouve un peu ce qu'on peut dire sur le sida. Quand on parle du sida en France ou aux États-Unis, à San Francisco, ce n'est pas exactement parler du sida en Ouganda ou dans des pays comme ça. Donc il y a le fait de dire on peut faire, théoriquement faire les choses, et puis il y a le fait de dire économiquement, compte tenu du niveau de développement des pays, c'est possible d'atteindre tel objectif.
Une question ici.
Vous avez, dans l'introduction, souligné le paradoxe ou la bizarrerie que les pays du Sud, comme l'Italie ou l'Espagne, aient moins d'enfants ou fassent moins d'enfants que les Scandinaves. Quelle est votre explication éventuelle de cette affaire ? Deuxième petite question, vous avez dit tout à l'heure que dans les années 70, les gens risquaient la psychiatrie s'ils parlaient de stabiliser la population. Eh bien, dans l'autre sens, c'est aussi effrayant. Vous êtes affirmatif en disant, dans telle année, ça sera stabilisé. Ça veut dire quoi ? Je ne vois pas très bien comment les gens continuent toujours à faire des enfants. Que l'on fasse des méthodes draconiennes comme en Inde ou en Chine, vous n'empêcherez jamais les gens de faire des enfants s'ils ont envie d'en faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire stabiliser à temps ? Et puis, la suite, c'est effrayant. En admettant qu'à un moment donné, oh, terminé, personne n'a plus le droit de faire un enfant. Vous voyez un peu ce que ça donne, un peu l'idée. Merci.
Oui, je vois l'idée, effectivement. Alors sur l'Italie, bon, c'est vrai que c'est un, j'ai pas de réponse à donner, je pourrais avancer une explication, mais ce qui est effectivement remarquable, c'est que pendant très longtemps, on a dit l'Italie et l'Espagne, c'est le foyer de résistance, si je peux dire, à la baisse de la fécondité en Europe. Regardez les populations du Nord, en Suède, évidemment, les femmes sont libérées, les mœurs, etc., donc il y a moins d'enfants. Et au contraire, en Italie, en Espagne, la fécondité se maintient. Et finalement, maintenant, la fécondité est très inférieure dans les pays du Sud. Alors, l'explication qu'on peut donner, qui n'engage que moi, c'est que ce sont des sociétés qui sont passées quand même de manière assez brutale, particulièrement pour l'Espagne, mais l'Espagne politiquement, mais l'Italie, je pense, économiquement, d'un régime où la société était assez tenue à une société où les valeurs se sont modifiées profondément. Et ça, je crois que... Sur le deuxième point, sur la stabilisation, là, je revendiquerai l'absence d'avis sur la qualité, sur la nécessité de la stabilisation. Ce que je disais, c'est que, et c'était clair dans la conférence des Nations Unies sur la population et le développement sur la stabilisation, c'est qu'avant, tout le monde, et je dirais tout le monde, souhaitait qu'il y ait une stabilisation de la population mondiale. Pas parce qu'en soi, on trouve que c'est bien, mais parce qu'on se dit que si la population, vous avez vu le rythme de croissance, si ça se maintient, c'est quand même problématique. La question, effectivement, après de la légitimité d'une politique qui va faire que les gens, c'est le problème de la Chine, c'est que les gens ne seront pas autorisés à avoir un deuxième enfant, c'est un autre problème. Ce que je disais, c'est que la stabilisation paraissait hors du champ des possibles il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est envisageable et considérable, enfin, je veux dire, qui peut être considéré, sachant qu'il y a eu la politique de population chinoise, mais pas uniquement, sachant aussi que les gens ont modifié leurs modèles familiaux, qu'ils vivent plus en ville, qu'ils appartiennent plus à une classe moyenne, qu'ils essaient d'avoir des familles plus réduites parce qu'ils veulent avoir une voiture et qu'il n'y a que deux places à l'arrière, ou je ne sais pas, enfin, on peut caricaturer. Mais je veux dire, c'est aussi beaucoup des aspirations des gens. Ce n'est pas uniquement une décision étatique ou multinationale de dire maintenant un enfant par personne. D'ailleurs, la stabilisation de la population mondiale ne demande pas un enfant par personne. C'est dans un modèle de deux enfants. Stabilisation, ça correspond à deux enfants par personne. Ça ne veut pas dire qu'on l'impose. Ça veut dire que d'eux-mêmes, les gens, et c'est ce qui se passe en France ou dans les pays développés, ce n'est pas parce qu'on a dit aux gens « ayez moins de deux enfants » qu'ils en ont moins de deux. Puisqu'au contraire, on dit « ils n'en ont pas assez » dans les pays développés. Donc c'est bien que ce qui se passe échappe quand même largement au contrôle de l'avenir de la planète. Le cas de la Chine mis à part, d'ailleurs la politique chinoise ne marche pas non plus indéfiniment, ils sont revenus en arrière sur un certain nombre de points, ça a marché à l'échelle de la Chine, ça c'est vrai. C'est vrai qu'on voit le décrochage des courbes et que les moyens étaient tellement draconiens que ça a eu quand même une incidence très forte. Mais les gens ont eu aussi des stratégies pour essayer de faire face. Mais donc je ne dis pas que la stabilisation est bien, mais je crois qu'on peut admettre, tout le monde admet aujourd'hui, que la poursuite indéfinie de la croissance de la population n'est pas souhaitable. Même si je ne pense pas que c'est responsable de tous les problèmes écologiques, parce qu'on a tendance à faire l'équation population égale problème écologique, mais il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas liés à la croissance de la population. Oui ?
Voilà. Jacques Véron, je vous remercie.
Ah bon.